vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
D'état de santé, réfrigérateur, télé, voiture et même des cadavres. La chaussée est défoncée, il y a plein de trous, peu de voitures circulent. Celles qui sont garées, il leur manque des roues ou elles ont été brûlées. Pour aller à l'hôpital, pour aller voir Frédéric, qui est sur les quais, il suit les quais, il passe devant des places qui sont transformées en campement de Romain Michel, des gens de toutes couleurs y sont, et on fait des baraquements avec ce qu'ils ont, tôle, carton, bois, voiture. Ils ont des carcasses de voitures renversées, caravanes, etc. C'est ça. Les pelouses sont remplies de détritus, des statues démolies. Face devant les universités, elles sont noircies par le feu, des vitres brisées, des graffitis sur les murs, banderoles. Drapeau noir aux fenêtres sans vie. Banderoles contre les diplômes et les examens fascistes, etc. Les jeunes sont devant et entoure les universités, habillés de loques, presque nus, noirs, cheveux longs, maigres, sales. Ils boivent de la bière et jettent leurs canettes ou leurs bouteilles contre le mur de l'université, en riant comme des cons. Ils sont avachis sur les marches des entrées. C'est dégueulasse, ça crie, ça rit. Les garçons flottent des filles qui se laissent faire et même rient, se déshabillent pour montrer leur sortir leur sein et pour se laisser flotter en riant comme des connes. Elles sont même plus dégueulasses que les garçons. Et en plus, elles sont maquillées outrageusement en noir. Cliff, en voyant tout ça, se dit que Lyon est une vraie cour des miracles. Tous les honnards de la France et même d'ailleurs sont réunis ici. Enfin, il arrive à l'hôpital Saint-Luc Framblanc. Parce que c'est un hôpital Framblanc. Un grand immeuble sur les quais du Rhône, avec de grandes baies vitrées, vitres de couleur. C'est un grand immeuble moderne, plein de vitres, rien de bien original. Cliff a arrêté son scooter sur le parking de l'hôpital, monte les escaliers qui mènent à l'entrée de l'hôpital. Baie vitrée, grande baie vitrée. Le hall est un peu sombre malgré les vitres. Parce que les vitres doivent être teintées. Il y a une banque d'accueil. C'est propre. Cliff, en marchant, se rend compte que le sol est glissant. Il se dit que c'est idiot d'avoir mis du carrelage glissant pour un hôpital. C'est bien, tiens, ça. Arrivé à l'accueil, où se trouve une hôtesse blonde, habillée en tailleur rouge collant. C'est la couleur de la Framblanc.
Dit, bonjour madame, j'aimerais essayer de pouvoir voir monsieur Frédéric Dampierre.
Elle regarde sur son ordinateur. Lui demande, vous êtes de la famille?
Non, je suis un employé et je veux lui rendre visite.
Il fait,
vous êtes qui?
Cliff, au courtois, votre carte.
Il lui donne,
votre pouce.
Il le met sur l'écran. Il lui rend sa carte. Prend son téléphone.
Allô, monsieur Frédéric Dampierre, j'ai à l'accueil un dénommé Cliff au courtois. Désirez-vous le recevoir?
Bien. Elle a décroché, dit à Cliff.
Vous pouvez y aller. C'est au 5e étage. Les ascenseurs sont à droite. 5e côté grande rue. Chambre 542. Merci.
Et va un ascenseur. Il y en a plusieurs. Ils sont tous vitrés et les cabines sont dans des tuyaux de verre qui sont à l'extérieur. Ce qui fait que l'on voit et que l'on est vu de l'extérieur. Cliff entre dans une de ces cabines, appuie sur le 5e. Arrivé au 5e, il sort. Long couloir. Et elles lui ont dit à droite, c'est marqué chirurgie. Le couloir est interminable. Ça tourne. Il cherche la porte numéro 542. Après avoir fait un long parcours, il trouve enfin, un peu gêné, il frappe à la porte. Attends. Rien. Il est vrai que dans le couloir, il y a un bruit qui est assourdissant. Ça doit cacher le bruit qu'il a fait. Alors, il recommence. Il entend « Entrez !» Il est entré. Petite pièce moderne de chambre d'hôpital, avec tout un côté baie vitrée. Il y a un lit, Frédéric. Frédéric, en le voyant, lui dit « Oh, c'est vous !»«
Bonjour.
Viens t'asseoir près du lit. » Tu dis « Je suis surpris que tu sois venu me voir. Merci. »
Je lui dis « C'est tout à fait normal. Vous allez mieux ?»«
Oui, ça va mieux. Et on va bientôt m'enlever tous ces tuyaux. Je vais recommencer à manger. J'ai eu mal, tu sais. Mais c'est fini. Juste une petite douleur. » Et la radio, elle est bien fermée.
Cliff lui dit, oui, Jean-Pierre Junier est venu nous payer et nous a annoncé qu'elle fermait. Frédéric lui dit,
elle rouvrira en septembre. Que vas-tu faire pendant tes vacances?
Cliff lui dit, je ne sais pas. Je vais certainement rester chez moi et j'attendrai.
Frédéric lui dit, « Moi, je vais aller me reposer un peu chez mes parents. Je ne peux rien faire pour le moment. Tu sais, je sentais venir cette crise. J'étais pas bien depuis quelque temps. Puis j'avais des nausées. Et puis, elle est venue foudroyante. J'ai appelé le médecin. Il m'a fait hospitaliser ici et opérer d'urgence. Il paraît que j'ai failli y passer.
Cliff lui demande. On est bien ici?
Frédéric lui dit.
C'est tout neuf et ça a été rénové. Racheté par Franblanc Riquin. Ils sont à la pointe du progrès. Les cliniques et hôpitaux Riquin sont les premiers au monde. Tu sais qu'ils reçoivent les plus grands de ce monde qui sont soignés là-bas. Même le président des États-Unis et le roi d'Angleterre. Nous sommes bien soignés. Et c'est tout neuf.
On a frappé à la porte. Entrez! C'est une grosse infirmière à cheveux gris, la revêche. Elle porte des chaussettes et des pantoufles en plastique. Arrive un peu avec un plateau en plastique. Va vers lui et dit à Frédéric, c'est l'or, des pilules. Elle lui donne un verre d'eau et trois pilules à avaler. Frédéric les avale. Puis elle dit, je vais vous chercher un plateau. Vous avez le droit de manger maintenant.
Frédéric lui dit, j'ai pas faim, il est trop tôt.
Elle le regarde bien et lui dit, c'est l'heure. Le service quitte à 18h. Il faut que vous ayez fini de dîner à 17h30. Nous n'allons tout de même pas faire des heures supplémentaires parce que le 542 veut dîner plus tard. Et nos 35 heures. Et elle sort.
Cliff dit, elle n'a pas l'air commode. Frédéric lui dit,
c'est normal. Elles ont beaucoup de travail. C'est la faute au gouvernement de droite.
Cliff se dit, parce que la droite est au pouvoir, tout est de leur faute.
L'infirmière revient avec un plateau qu'elle va déposer sur une table qui est à côté du lit pour manger sur le lit. Frédéric regarde ce que c'est. Il y a du potage, de la purée, carottes râpées, un yaourt et un morceau de pain. Frédéric dit, je n'aime pas la purée. Ne pourrais-je pas avoir autre chose? Elle le regarde bien et lui dit, ce n'est pas un restaurant ici. elle le quitte.
Frédéric fait la grimace et dit
« Ça m'a l'air dégueulasse. Je n'ai pas faim à cette heure. »
Cliff lui dit « Je croyais qu'on mangeait bien à l'hôpital Riquin des produits pontois. »
Cliff lui dit « Oui, mais il y a produits et produits. Et puis, je crois que le personnel se prend les meilleurs morceaux et même, ils en amènent chez eux. »
Cliff lui demande « Vous restez encore longtemps ?»
Peut-être une semaine ou deux. Tout dépend. Il cicatrise bien.
Frappe à la porte.
Entrez.
Entre l'infirmière. C'est la même femme de service que tout à l'heure. Elle s'approche du lit. Voit qu'il n'a pas mangé. Elle lui dit, l'air menaçant.
Le 542 n'a pas mangé.
Frédéric lui dit, je n'ai pas faim.
Je n'ai pas faim, puis je n'aime pas la purée.
Elle le regarde bien et lui dit,
le 542 n'a pas mangé. Il n'est pas sage, le 542. C'est une forte tête. Il sera puni. Pas de comprimé contre la douleur pour cette nuit. Et ce sera Georgette qui fera les piqûres demain matin. Le 542 sait ce que ça veut dire, tout ça. Georgette ne sait pas faire les piqûres. Bien fait pour 542.
Elle prend le plateau et dit à Cliff,
la visite est terminée. Le 542 est puni.
Frédéric dit à Cliff,
va-t'en, ne dis rien.
Cliff, outré, irrité, se lève.
Au revoir, Frédéric. Je viendrai demain après-midi.
Frédéric lui dit,
merci. Tiens, apporte-moi les journaux, Le Progrès et Le Monde.
Bien.
Et Cliff le laisse.
Il réussit à trouver l'ascenseur au milieu de tous ces couloirs.
Sort de l'hôpital, il fait moins jour. Décide de laisser son scooter sur le parking de l'hôpital. Il risque rien parce qu'il y a des systèmes de sécurité pour les deux roues. Décide, c'est de trouver dans la ville un restaurant pour manger. Oui, il va se payer le restaurant puisqu'il a sa paye. Et peut-être aller à l'hôtel pour la nuit. Il se dit qu'il va se payer un séjour de luxe dans une ville pourrie. Voir que c'est la direction de Perrache. Il va au hasard et comme il y a de rares piétons, il est souvent accosté par des gens qui font la manche. La ville est bien délabrée et très sale. Les transports en commun circulent presque plus à cause des chaussées qui sont défoncées et que les gens n'ont plus d'argent. Il arrive place Carnot, qui est un immense binonville, avec des gens en loc qui boivent, crient, se battent, jouent de la guitare ou du tambour. C'est très sale. Des jeunes broyent, se jettent
des santé, sont en deux lits. Ils ont avec eux des chats, des chiens, et même des rats sur leurs épaules, des poules, des chèvres et un homme. Les baraques sont des tissus posés sur des fils de bois, de vieilles blocs déchirés sans. Entre les deux baraques, l'on fait des feux de camp. Le devant de la gare de Perrache est une décharge. Ses escaliers et ses escalators sont en ruine. Vitres brisées, escalators démolis aussi. Seuls des escaliers restent et en très mauvais état. Le passage du centre pour aller à la gare est aussi en ruine. Plus de vitres, de magasins. Il y a des gens assis à même la terre, surtout des noirs qui vendent des sentiers soi-disant faits artisanalement et qui sont réalisés ou fabriqués à la chaîne dans la banlieue parisienne ou à Marseille. Ce sont des choses grossières, d'art africain pour des poutres avec des sacs et des porte-monnaies. Pour faire folklorique, les noirs s'habillent avec des robes multicolores dégueulasses comme les blancs. Quant à la gare elle-même, Clip n'est pas allé la voir. Elle est en piteux état. Elle est devenue le lieu de refuge des SDF, voleurs, etc. Peu de trains. Et puis, ils sont à la porte. Clip n'a pas pu traverser la place. Car il y a tellement de bazar, des tas de tissus multicolores, de santé, de gens bizarres, et même de bêtes. Et puis, il ne sait même pas que ce tas de ruines, c'est devenu, c'était avant la gare. Il prend une petite rue pour aller sur les quais de Saône. Là aussi, c'est délabré et rempli de zombies. Il suit le quai pour aller du côté du centre de la ville. Voit sur une colline une bâtisse qui avait dû être une église qui est à moitié démolie. Et brûlé. Il ne reste que les bords de la façade. Et un côté du tour. Et puis, il y a à côté de la bâtisse un tas de ferraille qui devait être une tour quelconque. L'on faisait quai pendant un moment. Puis décide, c'est de traverser pour chercher un endroit pour manger. Il traverse, prend une rue qui le mène vers la rue de la Martinière. Il y a une place et une école. Et une enseigne où c'est marqué Hôtel de Martinière. Mais c'est fermé. Il traverse cette petite place, toute triste. Et prend une petite rue qui le mène à la place du sergent Blandan. Il y a quelques jaunes qui zonent. La statue du sergent Blandan a perdu sa tête. L'immeuble où il y avait le commissariat a pris feu. Et plein de trous de balles. Il est vide. Les magasins de la place sont abandonnés. Tout semble triste. Clip monte les escaliers, traverse la rue et se trouve dans un jardin qui monte. Il le prend et se trouve sur les pentes de la forêt. Dans une petite rue qui monte. Dans cette rue, qui est plus calme que celle des quais, mais les maisons sont aussi délabrées. Il n'y a pas de jeunes gens qui traînent dans les rues. Arrivé à un tournant, il tombe nez à nez avec un petit vieux à cheveux tout blancs, maigre, le visage bizarre. Il porte Daria Barbie grise pourrie et tachée, un pantalon marine taché aussi, avec des bottes en caoutchouc jaune. Il a à la main un vieux sac pourri nac. Cliff, qui a manqué tomber sur lui, lui dit « Pardon, c'est lui, monsieur.
Je m'appelle Pierre Max. »
Cliff semble reconnaître, mais ne voit pas. Le monsieur continue, lui dit
« Je fais de la radio. Comme chaque soir, je vais voir ce que font ces sans-lanards. Ils font ces merviers. Et vous ?»
Cliff lui dit « Moi, rien. »
Le vieux lui dit « Alors, vous venez avec moi à la radio ?» Mimi.
Cliff lui dit « Je sais pas. » Pierre Max lui dit
« Si, mon Mimi, tu me tiendras compagnie. »
Cliff se dit que ce serait peut-être intéressant de voir une radio d'une grande ville. « Oui, je veux bien. » Pierre Max dit
« Viens !»
Et ici, le petit vieux bizarre. Cliff lui demande « Qu'est-ce que vous faites à la radio ?» Pierre Max dit
« Moi, je fais une émission. »
À l'écoute du monde. Mon émission fait venir les gens du monde entier.
Mais personne ne vient me voir. Les gens s'en foutent. C'est une radio de merde. Et puis, c'est pas Europe 1. Alors moi aussi, je m'en fous.
Il me demande. Alors pourquoi est-ce que vous faites de la radio, Pierre-Massini?
Parce que j'en ai envie. Voilà.
Descendent les pentes et retournent vers la rue du sergent Blandan. Pierre Max le mène à Cité Radio, qui se trouve dans une petite rue dégueulasse et étroite. Il est dans un port de porte d'un vieil immeuble. La façade du port de porte est en bois vitré à l'ancienne. Il y a des barreaux aux vitres. C'est sombre. Pierre Max le fait rentrer à la radio. Dans un tunnel sombre, il y a un hall d'entrée avec une vieille banquette pourrie et déchiré. Tout le long du couloir, il y a une baie vitrée qui montre les studios. Petite pièce avec une table ronde en PVC, 4 micros dessus et des chaises de salle à manger, il y en a 4, 1960. Elles sont bancales. À côté, il y a le studio minuscule, la régie plutôt, régie studio minuscule, très sombre. Au bout du couloir, il y a une porte vitrée qui donne à une autre pièce où l'on voit des tas de n'importe quoi. Il faudrait 50 pages pour décrire tout ce que l'on voit ici. Pierre Max veut visiter tout ça. Il y a des records dégueulasses qui boivent et fument au studio et à la régie. Pierre Max ouvre la porte du studio.
Passage!
Un jeune à cheveux longs noirs lui dit:
ta gueule, Pierre Max! Les micros sont ouverts.
Pierre Max demande:
vous parlez de quoi?
Je lui dis « De l'affichage libre !» Pierre Mats s'approche du micro et crie « Je suis contre !» Le jeune lui dit « Ta gueule! Tu n'as pas le droit de dire ça! La radio se bat pour ça !» Pierre Mats lui dit « Je m'en fiche! Je suis de droite et je dis ce que je veux, là !» Le jeune lui dit « Non, tu nous fais la paix et tu nous laisses faire notre émission !» Pierre Mats lui dit « C'est toujours la même chose! Personne ne me veut, on me rejette, c'est la faute à la nounou. J'ai le droit de vivre, le jeune lui dit, et de nous foutre la paix. Les micros sont ouverts, et on nous entend à l'antenne. Pierre Mats lui dit, je m'en moque, j'ai le droit de dire ce que je veux. Tu l'as déjà dit, alors tu fiches le camp. Pierre Mats voit un paquet de gâteaux secs, il demande, qu'est-ce que c'est? L'autre lui dit, tu en auras si tu t'en vas. Pierre Mats dit, j'aime bien les gâteaux, moi. Il fait la grimace et fait, bon, je m'en vais. Au revoir mes auditeurs. Et je vous donne rendez-vous vendredi à 20h20 pour mon émission à l'écoute du monde. Il prend le paquet de gâteaux et... qui était sur la table et sort du studio. Cliff l'a suivi. Pierre Mats dit, c'est des sales gauchistes. Puis il va ouvrir la porte de la régie. Bonjour mon Mimi. Le jeune est un petit blond d'un des 18 ans, habillé de noir, dégueulasse. Pierre Mats lui dit, bonjour. Ferme la porte. Pierre Mats se penche vers lui et lui donne des baisers sur la tête et sur l'épaule. Mon Mimi, c'est des baisers de paix. Le jeune lui dit, allez, fiche le camp. Et Pierre Mats sort de la régie. Cliff a eu le temps de voir le matériel et se dit, que c'est des appareils vieux d'au moins 50 ans qu'ils ont dû acheter ça d'occasion. Ils sortent de la radio. Pierre Mats dit, bon, eh bien, il faut que j'aille chercher mon lait pour demain matin. Il lui demande, est-ce que vous connaissez un restaurant pas trop cher? Pierre Mats lui dit, moi, je vais manger de la merde chez un kebab de merde. C'est dégueulasse, mais pas cher. Des restaurants, il y en a plein. Dans la rue, là, en allant vers les quais. Il lui demande, et un hôtel pour la nuit? Pierre Mats lui dit, au bout de la rue, il y a l'hôtel Saint-Vincent. C'est pas cher. Je suis allé passer la nuit une fois lorsque j'ai perdu mes clés. Merci. Pierre Mats se penche pour lui donner un baiser et lui dit, tu es mon Mimi. Et il le quitte en parlant tout seul en marchant. Cliff suit la rue. Il trouve un restaurant, la Bouse d'ail. Il y rentre. La salle est agréable, il y a un peu de monde. Un serveur dans les 22 ans, grand, mince, blond, un tablier blanc, va à lui. Désiré, monsieur, Cliff dit, c'est pour dîner, veuillez me suivre. Et il le mène à une table, seul. Une heure plus tard, Cliff sort du restaurant après avoir bien mangé.
Il fait nuit, 22 heures déjà. La rue est presque vide. Mais il y a une espèce de café, boîte. Qui fait l'angle, qui est presque en face de la radio, fait un bruit terrible dans la rue, avec sa musique exotique. Puisque Cuba est à la mode cette année, les pauvres doivent être des Cubains. C'est de bon ton. Et la culture cubaine est à la mode aussi. Cliff décide d'aller à l'hôtel Saint-Vincent qui se trouve au bout de la rue. C'est un petit hôtel. Le hall d'entrée est propre, simple mais propre. Avec à l'accueil, il y a un côté salon aussi. À l'accueil, il y a un homme dans les 30 ans, en costume gris, cheveux châtains. Cliff lui demande « Est-ce que je peux avoir une chambre, s'il vous plaît ?» L'homme le regarde, il n'a pas de valise. Il lui demande « Pour combien de temps ?» Cliff lui dit « Je ne sais pas, une nuit ou deux ?» L'homme lui dit avec dédain « Je vois ». Il regarde sur son ordinateur pour savoir s'il y a des chambres de libre. Il lui dit « Oui, nous pouvons vous prendre, mais payer à l'avance. » Cliff lui dit « Bien, combien ?» L'homme lui donne une somme. Pour les économies de Cliff, c'est un peu cher. Mais pour une chambre d'hôtel, ce n'est pas un prix trop cher, c'est même raisonnable. Bien, je prends. Oui, je prends. Votre carte, monsieur. Cliff lui donne sa carte. Il la met sur l'écran. L'homme lui demande votre pouce. Cliff met son pouce sur l'écran. Et tape. Il y a toutes les informations. L'homme fait le transfert pour la somme et voit le compte de Cliff. Il se dit un plouc. C'est pas un PD. Et seul le compte de Cliff mesure son importance. C'est la différence qu'il y a entre un PD qui lui n'aurait se récupéré que de sa belle mine. En fait, PD est plus sociable que les autres. Parce que les autres, la richesse, il n'y a que la richesse qui compte pour eux. Tandis que pour le PD, seul le fidiste compte, etc. L'homme lui rend sa carte, lui tend une clé. Chambre 21, premier étage. Prenez les escaliers à droite. Cliff prend la clé et va monter les petits escaliers étroits, propres, qui a une moquette dessus. Au premier étage, il trouve la chambre 21. L'ouvre, éclaire et entre. La pièce est petite mais agréable, propre, avec du mobilier moderne, bien fait. Il y a une porte qui donne à la salle d'eau. Cliff va à la salle d'eau. Après s'être lavé, il se couche. Les draps sont propres, mais rugueux. Ça ne le gêne pas. Il a une journée très fatigante. Le voyage, la visite à Frédéric, Pierre. Pierre Max et cette ville qui ressemble à une ville de guerre de fin du monde. Ces gens ressemblent à des zombies.
Lendemain matin, il se réveille, s'habille, et sort de sa chambre. Il est à la banque. C'est un autre homme qui s'y trouve. L'homme lui demande : vous gardez la chambre, monsieur ? Puis il lui dit : gardez-la moi, et si je ne reviens pas à 18 heures, c'est que j'en aurai plus besoin. Bien, monsieur. Et Cliff sort de l'hôtel.
Beau, doux. Cliff va dans une épicerie. Était en face de l'hôtel et pour acheter des gâteaux secs pour faire son petit déjeuner. Tout en mangeant, il marche au hasard. Ce matin, les gens sont encore chez eux ou dans la rue, assis à terre ou dans leur tente, leur cabane. Cliff marche d'un bon pas. Il arrive vers les quais du Rhône, place Louis Pradel, rempli de jeunes défoncés et sales. L'opéra est à moitié démoli. Le dôme, il ne reste qu'un tas de ferraille rouillé. Les murs de ferraille sont pleins de trous. Cliff longe et va prendre le pont pour aller sur l'autre quai. Il suit les quais du Rhône. Arrivé au bout d'un moment, il voit qu'en face du quai, il y a une place avec au fond un grand portail qui semble s'ouvrir à un parc. Le portail est très grand, magnifique. Cliff décide d'aller voir. Il traverse pour aller voir. Il entre. Oui, c'est un grand parc. Il voit qu'il y a un grand lac avec des pédalos, des allées boisées, des marchands de friandises, un petit train qui fait le parcours du parc. Les gens passent tranquillement. Les enfants courent. Comme il fait bon, ils décident de marcher et de longer le lac en prenant une petite allée qui le suit.
Oh, my God.
Il arrive devant un vieux kiosque à musique. Tout semble calme. Ça change avec la ville qui est délabrée. Oui, tout semble calme. Il marche en regardant le lac avec ses pédalos, ses barres, ses signes. Il est pris par tout ce qu'il voit en marchant. Tout d'un coup, il se sent accroché. Oh ! Se retourne et voit qu'est tombé à terre un homme grand, mince, cheveux rares grisonnants, lunettes métal, tête osseuse, costume beige, chemise blanche et cravate beige. Puis dit, excusez-moi. Il aide le monsieur à se relever. Merci beaucoup. Il lui dit, je suis confus. Je marchais en regardant le lac, sans faire attention, sans regarder où j'allais. L'homme dit, vous n'êtes pour rien. Moi, je regardais un beau visage. Je vous remercie de m'avoir aidé. Je me présente, monsieur de Jean-Jean. Puis se dit qu'il semble avoir déjà rencontré ce monsieur, mais il se souvient plus. Il lui dit, moi, je m'appelle Cliff. Monsieur de Jean-Jean lui dit, quel nom délicieux, mais étrange. Puis il dit, merci. Monsieur de Jean-Jean lui dit, vous visitez le parc. Puis lui dit, oui, vous n'êtes pas de Lyon. Non, je suis de Saint-Vallière de l'Isère. Monsieur de Jean-Jean lui dit, je ne connais pas, mais ça doit être sûrement un charmant endroit vu de spécimens de personnes qu'il y a là-bas. Puis lui dit, merci. Mais il y a surtout des personnes âgées, disant lui dit, oh, mais elles ont de la chance de voir près d'elles. Une personne comme la vôtre devait avoir beaucoup de succès. Cliff lui dit, pas beaucoup. Les jeunes gens là-bas, pour eux la jeunesse c'est terrible. Disant lui dit, je ne savais pas que la beauté était dangereuse. Je vois. Cliff lui demande, comment s'appelle ce parc? Le parc de la tête d'or. Je n'aime pas tellement. J'aime mieux les petits parcs en pente, comme celui que l'on a à Fourvière. Mais comme j'habite à côté, alors je vais de temps en temps. Et vous? Vous êtes à Lyon pour combien de temps? Il lui dit, un jour ou deux, je ne sais pas. Je suis venu voir un ami qui est malade. Ce jour-là, il lui dit, c'est gentil ça. Il regarde sa montre, il le sait en or, et lui dit, il est bientôt l'heure des déjeuners. Pour vous remercier, je vous invite au restaurant. Il lui dit, mais je n'ai rien fait. Ce jour-là, il lui dit, ne dites pas ça. Votre visage a fait pour vous. Cliff ne comprend rien à ce qu'il lui dit, mais se dit que ce doit être un homme très cultivé. Alors il lui dit, j'accepte votre invitation. Merci, monsieur.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.